je voudrais vous présenter aujourd'hui le projet PROSI. PROSI étant la contraction de projet Cycle Inférieur, ou si on le déclinait en termes français, ça s'appelait PROCO, projet collège. L'élaboration du projet PROSI démarre avec un choc qui a heurté de plein fouet le Luxembourg. C'était en 2001, lorsqu'on a publié le rapport PISA. On nous montrait noir sur blanc que notre pays, il n'était pas ce que notre système éducatif n'était pas ce qu'on croyait être. On avait des acquis scolaires insuffisants dans tous les ordres d'enseignement. On n'avait pas suffisamment d'élèves performants, voire très performants, et beaucoup trop d'élèves en réelle sous-performance à 15 ans. On nous montrait noir sur blanc que l'ascenseur social ne fonctionne pas au Luxembourg, c'est que l'école n'arrive pas à pallier l'arrière-fond socio-économique et linguistique de nos élèves. Et on nous montrait qu'on avait un taux de redoublement parmi les plus élevés en Europe, et ceci dans un système ou qui répartit, ou nous on l'appelle oriente, à la fin de l'école fondamentale, les élèves ont trois filières. Donc juste pour vous dire que même si on fait une filiarisation précoce, ça ne vous permet pas d'autant d'en déduire qu'on va réduire le redoublement. Alors le projet PROSI a essayé de s'attaquer à la fois à l'objectif de comment est-ce qu'on peut mieux orienter l'élève, mais comment est-ce que pendant l'équivalent du collège, notre cycle inférieur, comment est-ce qu'on peut influencer sur la pratique du redoublement. Comment est-ce qu'on l'a fait? On a pris 4-5 lycées volontaires et on a changé l'organisation scolaire. On a mis en place une organisation scolaire qui permet une stabilité au niveau des classes, tant au niveau des élèves qu'au niveau des enseignants pour la première et deuxième année du cycle inférieur. On a mis en place une équipe d'enseignants réduite par le fait que les enseignants aient accepté d'enseigner deux ou plusieurs matières. Et de par cette réduction, cette équipe pédagogique réduite, ceci a permis de mettre en place un suivi plus rapproché des élèves et un dispositif de remédiation plus précoce. C'est aussi parce qu'on a réinjecté les ressources qu'on a épargnées en réduisant le redoublement dans le système. On a mis en place une évaluation aussi plus nuancée au niveau des différents domaines de compétences pour obtenir des profils de compétences des élèves plus pointus pour les orienter. Et en fait, ce qu'on a fait, on a fait en première et deuxième année une différenciation interne. C'est seulement en troisième année de cycle inférieur de collège, donc on met en place une différenciation interne où les élèves peuvent choisir en langue et en mathématiques entre un cours de base et un cours pour avancer. Ceci a été possible parce qu'on a abandonné une pratique qui était très courante au Luxembourg, c'est dans ces lycées-là, et on a abandonné l'idée de l'ajournement, respectivement du redoublement en première et en deuxième année. Ce qu'on a mis en place, et c'était surtout souvent à la demande des parents, c'est un redoublement volontaire en troisième année. Ce redoublement, on l'avait quand même, dans certains lycées, on avait couplé à une démarche où les écoles mettaient en place des classes spécifiques pour redoublants, avec des horaires adaptés, des programmes adaptés et un encadrement spécifique pour ces classes-là. Ce projet-là, on l'a démarré, commencé à le penser à partir de 2000-2001. On a commencé à le mettre en place à partir de 2000. Et je peux vous dire que le projet avait ses détracteurs dans notre pays et on nous demandait en permanence, mais qu'est-ce qu'il en sort ? Alors ce qu'on a commencé à faire, au bout de 3-4 ans, on a commencé à faire une analyse interne. Cette analyse interne, elle se basait sur les informations qu'on avait au niveau du système, c'est-à-dire au niveau de nos notes. On a un système centralisé de la gestion des notes et de la progression des élèves, donc on pouvait suivre les élèves à la trace, on pouvait voir quand est-ce qu'ils rentraient dans le système, comment est-ce qu'ils progressaient. Et on a constaté, d'abord, première chose, peut-être étonnant, mais on a constaté qu'on a eu une réduction du redoublement, parce que souvent ce qui arrive dans des projets, on veut arriver à quelque chose et le système trouve des voies détournées pour le refaire. Donc il y a eu effectivement une réduction du redoublement. Et ce que le détracteur disait, mais si vous ne faites plus redoubler les élèves, ils ne vont plus pouvoir continuer après, une fois sortis du projet. Et ce qu'on a constaté, que les élèves qui sortaient du projet, ils arrivaient à continuer leur scolarité normalement dans ce projet-là. On a constaté aussi, lorsqu'on a un peu regardé les notes des élèves, que le projet avait un impact très fort sur les élèves performants. Mais que malheureusement, ce qu'on constatait sur les notes, c'est que l'impact n'était pas ou peu sur les élèves faibles. Et surtout, ce qui nous rendait un peu tristes, c'était que l'impact sur les décrocheurs qu'on tablait n'était pas aussi visible. Donc, il y avait très peu d'impact sur les décrocheurs. Il faut dire quand même que ces évaluations internes nous laissaient un peu sur notre faim, puisqu'elles se basaient sur les notes et les décisions scolaires. Et nous savons tous que les notes et les décisions scolaires, elles varient d'un enseignant à l'autre, d'une école à l'autre, etc. Donc, il nous manquait une référence externe. Alors, on a commencé, on a réfléchi et on a trouvé une solution. Il faut savoir qu'au Luxembourg, lorsque nous faisons PISA, tous les élèves de 15 ans font PISA. Ça a raison avec la taille de notre échantillon. Donc, tous les élèves de 15 ans, cette année-ci, vont passer le test PISA. Et à 15 ans, c'est pile poil l'âge aussi à laquelle c'est la fin de notre cycle inférieur, donc aussi à la fin du projet. Donc, ce qu'on a fait, nous avons profité de ce fait pour comparer à âge égal les performances cognitives des élèves en mathématiques, en compréhension de lecture et en sciences naturelles des élèves à la fois qui étaient dans le cursus traditionnel et les élèves qui étaient dans le projet PROSI. De plus, il faut savoir que dans le projet, dans PISA, on récolte non seulement les données de performance, mais on récolte aussi des données contextuelles comme l'arrière-fond socio-économique, la situation linguistique, la situation familiale, ce qui permet aux statisticiens de déduire tout cet effet-là des performances pour avoir une comparaison à un effet net. Et alors là, on a fait ça non seulement en 2006, mais on l'a fait en 2009 et on l'a fait en 2012. Donc on a eu un effet, une mesure longitudinale de ces effets-là et nous avons constaté que si on prend comme référence non pas les notes, le système lui-même, mais une référence externe, on constate qu'il y a une avance nette des élèves du PROSI dans le test PISA. Elle était en 2006 de 15 à 21 points, ça dépendait des qui se situaient en mathématiques, en lecture, etc. En 2009, elle était de même ordre de grandeur et il faut savoir que 20 points PISA, ça correspond à peu près à une demi-année scolaire. Donc les élèves aussi avaient au niveau cognitif dans ces trois domaines-là une avance certaine sur leurs élèves du cursus traditionnel. On constate cependant, à partir de 2012, là, ça commence, l'effet commence à se dissiper un petit peu. Nous allons voir en 2015 et nous allons essayer de trouver les raisons à celui-là. Une des raisons à cet effet de dissipation pourrait avoir que le fait que nous étions partis avec 4 lycées pionniers, maintenant le projet s'est étendu. Et actuellement, c'est plus d'un tiers des lycées techniques qui adhèrent à la philosophie du projet. Bon, un tiers au Luxembourg, ça c'est 13 lycées, mais quand même, on arrive à passer à une vitesse supérieure. Et nous avons aussi constaté que chaque école a mis en place, il y a une philosophie, mais il n'y a pas une mise en application uniforme. C'est-à-dire que chaque lycée essaye de trouver son interprétation. Ça apporte d'un côté un avantage certain, mais aussi ça commence à le caractère national commence à se dissiper un petit peu. Et là, on est en train de réfléchir aussi dans le cadre d'une réforme des lycées qu'on va faire. Comment est-ce qu'on arrive à combiner un cadre légal qui permet une liberté, mais quand même une certaine standardisation au niveau des objectifs. Bon, comme Olivier m'avait donné 6 minutes 50, voici mes conclusions. Donc, première conclusion, et là, je suis très précautionneux. Je dis que réduire le redoublement ne conduit pas nécessairement à une dégradation de la performance scolaire, ce qu'a montré le projet là, mais ceci est vrai à condition de respecter certains éléments. Ce qu'on a fait au Luxembourg, c'est qu'on a réinjecté les ressources qu'on a économisées, c'est-à-dire qu'on a essayé de calculer qu'est-ce qu'on gagne si on ne fait plus redoubler les élèves, et on a réinjecté cela dans le système, c'est-à-dire les écoles n'avaient pas l'impression de perdre lorsqu'il abordait ce problème-là. Un deuxième effet, c'est qu'on ne peut pas développer un projet qui est standardisé pour tout le monde, donc il faut une interprétation locale des différentes spécificités, mais il faut une adhésion au principe. Alors là, c'est là où parfois ça devient très délicat, mais il y a des acteurs très importants. Il faut qu'il y ait l'adhésion des enseignants. Si les enseignants n'adhèrent pas au projet, n'adhèrent pas à la démarche, ça fonctionnera pas. Et nous croyons, nous ne savons pas encore que c'est, par exemple, ceci est c'est l'un des effets, pourquoi l'effet commence à se dissiper, parce qu'on arrive à plus d'enseignants et qu'au départ, on avait des gens qui étaient investis à fond, et là, ça commence à s'élargir, que l'effet se dissipe de cette façon-là. Et on a l'un des éléments, il faut un chef d'établissement qui soutient le projet. Donc il y a ces éléments-là qui sont, à notre avis, essentiels là-dessus. Pour nous, il y a quand même des challenges qui subsistent. Comment est-ce qu'on passe d'un projet localisé à une implémentation, à une généralisation au niveau national, sans perdre l'effet global? Et l'un des effets qu'on n'a pas réussi à adresser précisément, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les décrocheurs potentiels, parce que ça, c'est un des aspects où on a peut-être encore un peu plus de travail, même au niveau du projet, à ce moment-là. Donc, ceci pour un court survol d'une initiative qu'on a mis en place depuis 2002 et que on va continuer à travailler dans une optique d'implémentation au niveau national. Je vous remercie.